Bonjour à chacun. Je suis très content de ce matin qu'on ouvre la Bible. On a chanté un chant à tes pieds. On veut écouter la voix du divin maître. On veut écouter ce livre qui est plus qu'un livre. C'est la parole de Dieu qui a traversé les siècles et que Dieu nous parle vraiment ce matin. Que nous puissions vraiment écouter celui qui sait ce qu'il y a de mieux vraiment pour nous. Je vais commencer par une histoire personnelle vécue qui a été un petit peu difficile à vivre au début. Beaucoup d'entre vous, vous le savez, je ne suis pas français. J'ai un nom et j'ai un prénom et un nom qui n'ont rien de français. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Et je ne savais pas parler le français, à part le « bonjour, comment ça va ? Je m'appelle Ricardo, vous allez bien ?» À part ça, je ne savais pas dire grand-chose. Et j'ai donc dû apprendre cette belle langue de Molière, de Voltaire, de Victor Hugo et bien d'autres. Des auteurs qui m'ont mis beaucoup de stress pour l'oral et la fameuse épreuve écrite de français. Ce n'étaient pas forcément mes meilleurs amis à ce moment-là. C'est une langue difficile pour ceux qui l'apprennent. Parce que, par exemple, je sais, il sait, on a l'impression qu'on entend la même chose, mais ça ne s'écrit pas pareil. Et comment on peut comprendre tout ça quand on arrive et qu'il faut apprendre cette belle langue ? Je sais, vous savez, c'est avec un S à la fin, il sait, c'est avec un T à la fin. Et il n'y avait pas vraiment d'explication. Quand je demandais, mais pourquoi 20 heures de français minimum par semaine et pendant 6 mois à la Cité scolaire internationale avec des profs de français langue étrangère avec une patience incroyable m'ont fait enfin pouvoir comprendre et parler cette belle langue. Mais si vous passez un peu de temps avec moi, vous allez voir qu'il y a toujours et encore des mots impossibles, très difficiles à prononcer. Mon accent me trahira toujours, et cette phrase ne vient pas de moi, ça a été dit hier au groupe de jeunes par Benjamin Lalomia, il disait à peu près le même exemple pour l'anglais. Même après 10 ans en France, je suis un étranger. Impossible de me faire passer par un vrai français. À un moment ou à un autre, on saura, ah, ça sonne pas bien là ce que tu dis, t'es étranger. Et pour quelques-uns, je suis donc le Portugal. La prononciation plus ou moins exacte du mot « Portugal » en portugais qui donne « Portugal ». Pas du tout pareil. Vous voyez, je ne suis pas le seul à avoir du mal à apprendre des nouvelles langues. Pour moi, être considéré comme un étranger en France, quelque part, bah, c'est normal, je l'accepte, je le comprends. C'est vraiment la vérité. Mais le plus dur est pour moi d'être considéré maintenant comme un étranger dans mon pays. Quand je retourne là-bas, je suis maintenant considéré comme un étranger. Je n'utilise plus les mêmes expressions, j'utilise pas du tout les mêmes expressions que mes cousins et mes cousines maintenant. Je n'utilise plus les mots à la mode, en portugais, etc. Je pourrais continuer la liste. Et donc aujourd'hui, je suis un étranger. Dans le pays où j'ai grandi, dans le pays où j'ai mes racines, dans le pays où j'ai toute ma famille, presque, je suis aujourd'hui considéré comme un étranger là-bas. Cela fait maintenant 10 ans que je suis parti. Ça fait un bon bout de temps. Et là-bas, maintenant, je suis appelé un avec. Vous savez pourquoi ? Parce que pour eux, dans la langue française, il y a beaucoup de avec-ci, avec-ça. Et donc, tous ceux qui sont en France, les Portugais qui sont en France et qui vivent ici depuis quelques années, qu'ils considèrent comme des étrangers, ils nous appellent les avec. Voilà. Voilà un petit peu la situation un peu difficile. Mais c'est quelque chose avec laquelle je vis maintenant depuis quelques années. Et je sais que je suis maintenant un étranger en France et un étranger au Portugal. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que il n'y a pas que moi qui est étranger dans cette salle. Tous les Français sont étrangers en France. tout le monde est étranger sur la terre. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mais c'est la Bible en 1 Pierre chapitre 2 verset 11 qui dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, ou dans d'autres traductions, résidents temporaires et étrangers sur la terre. Les questions qu'on va se poser ce matin en lisant 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 17 sont les suivantes. Est-ce que nous vivons comme des étrangers et voyageurs sur la terre? Comment vivre comme des étrangers et voyageurs sur cette terre? Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 17. Alors, je pense qu'il va y avoir un petit problème au niveau du PowerPoint en bas, mais on va voir par la suite. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Un texte que je trouve magnifique. 1 Pierre est une lettre adressée à des chrétiens dans 5 régions d'Asie mineure. C'est le territoire de la Turquie actuelle. Et nous pouvons voir cela au début de la lettre de Pierre. Et Pierre est un apôtre, c'est-à-dire un homme qui a accompagné Jésus, qui a été formé par Jésus. Et ensuite, Jésus lui a donné à lui et à tous les autres apôtres une mission bien particulière, qui a été celle de mettre les fondations de l'Église avec un grand E, comme nous pouvons le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Pierre écrit ici à des chrétiens qui vivent la persécution. 1 Pierre chapitre 1 verset 6, nous voyons qu'ils vivent diverses épreuves. Et ces épreuves, nous savons que ce n'est pas de la maladie, de la pauvreté ou par exemple, pire encore, la mort. Car en 1 Pierre chapitre 4 verset 12 à 14, nous pouvons lire « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Les chrétiens auxquels l'apôtre Pierre écrit, ils sont persécutés parce que simplement ils suivent Christ. Simplement, ils portent le nom de Christ, ils sont chrétiens. Pour les réconforter, Pierre, comme nous l'avons déjà lu en ce début de culte, leur rappelle leur espérance future. Un jour, tout cela sera fini. Un héritage nous est promis. Et nous pouvons lire, en plus du texte qu'on a déjà lu ce matin, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En plus de leur rappeler leur espérance future, Pierre les exhorte, les encourage fortement à mener une vie sainte, qui sera un grand témoignage pour leurs persécuteurs et pour tous ceux qui les entourent. En les encourageant à vivre comme des étrangers et voyageurs sur la terre, Pierre est en train de leur dire de vivre un mode de vie radicalement différent, mais qui reste attrayant pour tous ceux qui les entourent. J'ai écrit un article il y a environ 2 ans sur la révolution où je dis que celui qui m'a emmené au Seigneur, Hugo, vivait une vie qui donnait envie. Je disais dans cet article que la vie, finalement, elle n'est qu'un trait d'union. Dans les tombes, souvent, on voit la date de naissance et la date de décès liées par un trait d'union. C'est un petit trait. Cela nous montre à quel point notre vie est vraiment passagère. Ça nous montre à quel point notre vie est courte. Finalement, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du trait. Et en tant que chrétien, nous savons que la mort n'est pas un point final, mais juste une virgule dans notre vie. Avant d'arriver à cette virgule, en tant que chrétien, nous devons nous poser une question. Une question qui est importante. Quel type de vie le Seigneur nous appelle-t-il à vivre? Je crois que c'est une vie qui donne envie. Je crois que c'est une vie comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Les chrétiens ont donc les pieds sur la terre, mais la tête dans le ciel. Nous aspirons à vivre dans les nouveaux cieux et nouvelles terres promis. Les chrétiens savent que leur patrie n'est pas ici. Je crois que maintenant vous êtes totalement convaincus que vous aussi, vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre. Que vous soyez chrétien ou pas, un jour, ça sera fini. Vous allez tout quitter, vous êtes là de passage. Vous marchez vers la fin du trait d'union. Et comment vivre en tant qu'étranger et voyageur? Le texte que nous avons lu nous montre que nous pouvons vivre comme des étrangers et voyageurs en ayant une bonne conduite. Il nous montre aussi que nous pouvons être étrangers et voyageurs en nous soumettant aux autorités. Et enfin, il nous montre que nous pouvons vivre en tant qu'étrangers et voyageurs en ayant un comportement d'homme libre. Pour avoir une bonne conscience, nous devons dire non aux désirs de notre nature humaine. Ce n'est pas juste les désirs sexuels auxquels on peut peut-être penser, et surtout moi, jeune, souvent sollicité sur ce domaine, que ce soit dans mon école et dans le lieu aussi où je suis en alternance dans mon entreprise. Mais je pense que c'est global pour tout le monde. Mais ici, Pierre ne parle pas juste de ces désirs-là. Pierre, comme Paul l'a fait pour les Galates, nous encourage à nous abstenir des œuvres mauvaises de la nature humaine qui sont, je vais citer la liste, l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc la liste n'est pas complète. Nous pouvons lire cela en Galates, chapitre 5, verset 19 au verset 21. Nous sommes ici appelés à nager à contre-courant. Je crois qu'on ne dit pas trop nager à contre-courant, on dit plutôt, je crois, marcher à contre-courant. Mais j'invente si nécessaire cette expression. Vous allez voir pourquoi. Le saumon est un poisson les plus rapides, un poisson d'eau douce des plus rapides, et cela permet vraiment de lui faire nager à contre-courant. Tous les saumons morts, ils suivent un petit peu le courant de l'eau, quoi. Tous ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas nager à contre-courant. Mais les vivants, ils ont cette capacité de nager à contre-courant. En tant que chrétiens, vivant pour une vie nouvelle, différente, comme nous avons vu dans le texte que Jean-Marc nous a lu, quelque part. Nageons à contre-courant. Nager dans le sens du courant, c'est finalement faire comme font tous les autres poissons, et surtout ceux qui sont morts. Le but de nager à contre-courant, c'est d'avoir la joie et la paix avec Dieu, et je pense dire aussi avec nous-mêmes. Car comme le dit le texte, ces désirs de notre nature propre, notre nature humaine, ces œuvres de notre nature humaine, elles font la guerre à notre âme. Un autre but, en menant une vie, enfin en nageant à contre-courant, c'est d'avoir une vie qui donne envie. C'est une vie qui rend vraiment gloire à Dieu. Les chrétiens à l'époque étaient accusés de bien de choses. Ils étaient accusés d'une rébellion contre le gouvernement, car ils refusaient par exemple de faire le culte impérial. Ils ne s'associaient pas à toutes ces choses. Leur réunion pour prendre le repas du Seigneur, comme nous l'avons fait, posait énormément de questions. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils se réunissent pour se rappeler de quelqu'un qui est mort, ils boivent du vin qui soi-disant est son sang, enfin qui représente son sang. Enfin, ça posait énormément de questions à l'époque. Et les chrétiens n'étaient pas bien vus, d'où la persécution. Aujourd'hui, nous pouvons également être critiqués, victimes de discrimination. Nous pouvons être accusés de choses vraiment qu'on ne fait pas. Par exemple, l'Église, ça sert qu'à laver les cerveaux. L'Église, ça sert à arnaquer les gens. L'Église, et vous rajoutez tout plein de choses. Des choses qui sont peut-être vraies en minorité, mais ce n'est pas la globalité des Églises qui font ça. Et pourtant, nous pouvons être accusés de ce genre de choses. Mais si nous faisons des actions concrètes, en aidant vraiment les personnes en nécessité, en donnant de la joie et de l'amour à tous ceux qui nous entourent parce que nous en avons reçu de Dieu, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra pas nier notre témoignage puissant qui est d'aider, d'aimer et d'être là pour tous ceux qui nous entourent. Noël, en fait, est bientôt là. Et cet événement autour de Noël est vraiment un événement magnifique pour montrer notre amour pour notre ville et pour montrer que nous vivons une vie différente. Nous voulons partager notre argent, notre énergie. Nous voulons mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés pour bénir d'autres personnes, pour vraiment venir en aide à des enfants à Madagascar qui en ont vraiment besoin. Notre bonne conduite nous permettra vraiment de toucher des personnes par la manière dont nous vivons. Ces personnes pourront s'approcher de Dieu en voyant notre manière de vivre, en disant, ok, ces personnes-là, dans un premier temps, je me dis, mais ils sont complètement, je comprends pas pourquoi ils croient à tout ça, mais par contre, leur vie, ça me donne envie. J'ai envie d'en savoir plus. Passons maintenant au deuxième point. Nous pouvons vivre comme des étrangers et voyageurs en étant soumis aux autorités, au gouvernement, à l'État. Cependant, commençons par mettre un bémol. Nous devons obéir aux autorités, mais jamais faire quelque chose qui irait dans un sens contraire à ce que Dieu veut et approuve. Ce même apôtre Pierre avec l'apôtre Jean, on dit, comme nous pouvons le voir en Actes 4, verset 19, devant des autorités juives religieuses de l'époque qui voulaient leur empêcher à tout prix de parler de ce Jésus, de parler de ce qu'il a fait, de sa vie. Et voilà ce qu'ils leur ont dit. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Nous n'irons jamais dans un sens contraire, même si c'est les autorités qui nous le demandent, à ce que Dieu a voulu dans sa parole. Et cela peut coûter très cher, cela peut nous coûter notre vie, mais c'est ce que Dieu nous demande. Mais tout en ayant la citoyenneté céleste, tout en ayant cet héritage promis dans les cieux, les chrétiens doivent obéir aux lois terrestres de leur pays. Les chrétiens doivent obéir à ces nombreuses lois qui permettent la paix dans le pays dans lequel ils vivent. Et je parle surtout pour la France. En obéissant aux autorités de notre pays, nous glorifions Dieu. Les chrétiens doivent être un exemple sur ces questions. Nous devons être un exemple sur ces questions. Et le texte va loin. Il dit « Honorer le roi ». Et peut-être que là, on se dit, en France, on n'a pas de roi, donc c'est un encouragement, ça ne s'applique pas à nous. Super, on peut passer dessus. Mais non, nous n'avons pas de roi, mais nous avons un président et beaucoup de ministres. Est-ce que nous avons un profond respect pour ces hommes qui nous gouvernent? Je dois l'avouer que ce n'est pas toujours mon cas. Pourtant, honneur, c'est bien la définition, un profond respect. leur travail n'est sûrement pas toujours facile. Gouverner un pays. Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous manifestons un profond respect pour nos autorités? Ce texte m'a posé bien évidemment des questions pour les applications pratiques. Franchement, je ne sais pas si je suis dedans ou à côté. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer une carte, non pas à François Hollande, mais peut-être à Éric Piolle, maire de Grenoble, pour lui souhaiter un joyeux Noël, une nouvelle année, et lui dire, lui manifester notre respect et lui dire que nous sommes reconnaissants pour telles et telles actions qu'il fait. Des questions que nous approuvons. Nous pouvons aller plus loin peut-être, l'inviter à un de nos événements. Il viendra ou il ne viendra pas, mais en tout cas, l'inviter, lui dire, vous êtes les bienvenus. Selon où l'on habite dans ce monde, ce texte peut nous poser énormément de questions. Des autorités mauvaises, il en existe. Si on regarde bien les infos, ce texte-là doit poser énormément de questions à d'autres chrétiens qui vivent à d'autres endroits du monde. Mais en tout cas en France, on sait que tout n'est pas mauvais, qu'il y a bien des lois qui sont bonnes, et en obéissant à ces lois, nous glorifions Dieu et encore plus, nous pouvons réduire au silence tous ceux qui peut-être nous accusent, nous critiquent, en voyant notre respect pour la loi de notre pays qui sont là pour notre bien, bien souvent. Je ne sais pas si les applications sont très concrètes, mais peut-être c'est un petit peu flou. Mais voilà, ce n'est pas un hasard si j'ai mis cette photo. Comment est mon comportement sur la route? Quel est mon comportement vis-à-vis des policiers? Cet été, je me suis surpris à rouler parfois un peu vite, de manière dangereuse pour moi et pour ceux qui m'entourent. Ça nous fait en tout cas réfléchir. Je ne vais pas beaucoup développer, sinon je risque de ne pas me faire beaucoup d'amis. Mais monsieur, attention au volant. Troisième point. Le texte nous dit que nous pouvons vivre comme des étrangers voyageurs en ayant un comportement d'homme libre. Au verset 16, nous pouvons lire « Comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » Quand la Bible parle de liberté, c'est magnifique parce qu'elle parle vraiment de la vraie liberté. Ce n'est pas une liberté où on peut faire n'importe quoi, qui aura des conséquences négatives pour nous et pour tous ceux qui nous entourent, mais c'est une liberté par rapport au péché. C'est une liberté par rapport aux œuvres mauvaises de notre nature humaine. Donc, les chrétiens sont libres du péché. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Dieu, maintenant nous sommes libres du péché. Et cela nous permet de servir, d'aimer. Avant, nous étions donc esclaves du péché. Impossible de dire quelque part non à ce péché qui était toujours là de manière présente. On était conscient ou pas, mais c'était une réalité. Impossible de dire non. Mais une fois que Dieu est en nous, nous pouvons maintenant dire non au péché. Et notre liberté par rapport au péché nous permet vraiment de servir les autres et Dieu. Un étranger et voyageur sur la terre respecte chacun, aime ses frères et sœurs, craint Dieu, c'est-à-dire respecte profondément Dieu et honore le roi, tous ceux qui nous gouvernent. Le chrétien, pendant son court séjour sur la terre, se met au service des autres. Le fait de savoir que nos jours sont comptés devrait vraiment nous encourager à servir, 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 tant que nous pouvons, de toutes nos forces. En tout cas, c'est des choses qu'on m'a dit, et par des personnes que j'apprécie, et ici même dans l'Église. Nous avons des exemples, et je pense que c'est ça. Nous sommes pour un court passage ici sur la terre. Et donc, Dieu nous appelle à servir, à aimer tous ceux qui nous entourent. Les besoins sont énormes. Je le réalise de plus en plus. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a encore de la place pour des gens qui veulent servir. Dieu ne dira jamais non. Il nous sauve pour qu'on puisse quelque part l'adorer. Et dans l'adoration, il y a le service qui est là. Et finalement, si on réfléchit bien, servir, c'est imiter au mieux notre Maître Jésus, qui a servi au travers de sa vie et sa mort sur la croix. Vivons comme des étrangers et voyageurs sur la terre, en ayant une bonne conduite, en étant soumis aux autorités et en ayant un comportement d'homme libre. En conclusion, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que celui qui a été le plus grand étranger et voyageur sur cette terre, ça a été Jésus. Il était tellement bien au paradis, mais il a tout quitté pour vivre un court séjour ici sur la terre, comme nous allons nous rappeler pendant Noël. Pendant ce court séjour sur la terre, il nous a laissé un exemple de vie à suivre. Il a donné à César ce qui était à César, et il a donné à Dieu ce qui était à Dieu. Et il a été le serviteur parfait, en ayant une liberté parfaite par rapport au péché. Ce texte s'adresse bien évidemment aux chrétiens en premier, mais voilà un peu la vie que Dieu veut que tous les hommes vivent. Réfléchissons à Jésus, réfléchissons à sa vie, réfléchissons à la croix, demandons pardon si nous vivons que pour le maintenant, sans avoir conscience que nous sommes juste des résidents de passage. Une chanson du groupe Yatal, Mon Fils, je pense que vous êtes nombreux à connaître Yatal. Je me suis l'autre jour en train d'écouter à nouveau le clip. Je me suis dit, tiens, encore un truc pour la prédication. Mon Fils, voilà par quoi elle finit cette chanson. Mon Fils, il faut que tu saches, nous sommes résidents de passage. Que nous réalisons tous que nous sommes des résidents de passage et que nous prenions des décisions importantes grâce à cet encouragement de Pierre qui est inspiré par Dieu. Amen.